Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de cette session d'actualité, la base de la MONUSCO Bunyakiri au sud Kivu appartient désormais à l'armée congolaise. Cette donation s'inscrit dans le cadre du processus de désengagement de la MONUSCO de la RDC et c'est le tout premier site de la mission à être remis au FRDC. Cinq groupes armés actifs en Ituri s'engagent à cesser les hostilités dans l'ensemble de la province. Engagement pris en présence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo à mission à Bunia, un acte salué par la société civile coordination de l'Ituri. Les eaux du lac Tanganyika continuent leur montée et les conséquences sont enregistrées à Uvira au sud Kivu et à Kalemie dans la province du Tanganyika. Pour en parler, nous recevons Maître Daniel Loaboshi, directeur général de la régie des voies fluviales RVS. Bonjour, c'est Journal Part du Sud Kivu. Processus de désengagement de la MONUSCO de la RDC, les FRDC bénéficient des matériels et d'un camp militaire pour la suite des opérations de protection de la population civile dans les territoires de Kalehe. La base de Bunyakiri constitue le tout premier site de la MONUSCO à être remis à l'armée congolaise. La cérémonie a eu lieu hier vendredi 19 avril. Reportage de Emmanuel Elamenjoa Kabedi.
Il s'agit d'un retrait ordonné et responsable de la MONUSCO à Bunyakiri qui constitue un tout premier transfert d'une base militaire de la MONUSCO à l'armée congolaise. Général Kar Diouf, commandant intérimaire de la force de la MONUSCO.
Je tiens à souligner que le transfert d'autorité aujourd'hui ne signifie pas le début de la fin du partenariat avec les Nations Unies. Au contraire, nous considérons cela comme le début d'une nouvelle phase de collaboration axée sur le partage d'expertise et la coopération en matière de sécurité.
La base militaire de Bunyakiri est très stratégique au vu de sa position géographique. Marc Malago Kachekere, gouverneur intérimaire.
La première particularité est que le site est donné aux FRDC. Bunyakiri, c'est presque à la frontière avec le Nord Kivu. Et Kalehe, c'est parmi les zones que nous voulons absolument contrôler jusque dans les fins fonds pour réellement combler les gaps que la MONUSCO nous a laissés. Le travail des Pakistanais ici à Bunyakiri, ça donnait des fruits. Nous sommes partis aux élections en bonne et due forme. La population peut vaquer à ses occupations.
Le contingent pakistanais de la MONUSCO est arrivé à Bunyakiri depuis 2004. Depuis, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées dans Bunyakiri Centre pour bénéficier de la protection. De retour de Bunyakiri, Emmanuel Elamejoa Kabedi, Radio Kapi.
Au Nord Kivu voisin, signalons la fin hier vendredi à Goma de la mission des 17 ambassadeurs accrédités en RDC. Mission conduite par les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations humanitaires. Devant la presse, les ambassadeurs se sont dit choqués par l'aggravation de la misère et de la souffrance des personnes déplacées dans leur site d'hébergement. Les condensés de cette visite dans ce reportage de Gabriel Ouaménian.
Sur le plan humanitaire, la délégation s'est dite choquée par les conditions de vie difficiles des personnes déplacées. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU en RDC a clairement dit que cette visite a permis aux ambassadeurs de comprendre l'ampleur de la crise qui touche le Nord Kivu, région méconnue par certains pays occidentaux. Bruno Lemarquis.
Les États membres, les ambassadeurs, les organisations multilatérales, de retour à la maison, vont faire le plaidoyer auprès de leur siège auprès de leur capitale pour mieux expliquer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est une crise qui est un peu négligée et oubliée, non seulement pour plus de financement, une meilleure réponse humanitaire, mais aussi en termes de l'engagement politique.
Sur le plan sécuritaire, l'ambassadeur suédois a clairement dit que l'option militaire n'aura pas une issue favorable à la crise. Henrik Rasbrandt.
Ça, c'est notre approche, c'est de soutenir les initiatives qui sont en cours où participent les parties prenantes qui ont pour but justement d'arriver à une solution politique diplomatique.
Le ministre Modeste Mutinga, représentant du gouvernement congolais, n'est pas passé par quatre chemins. Il a clairement dit devant les ambassadeurs que la RDC est victime d'un complot international. Goma, Gabriel Ouaméa, Radio Kapi.
À juste titre, la situation des déplacés des guerres est généralement prise de façon globale, assistance en vivres, en abri, conditions sécuritaires et autres. Cependant, il y a des besoins qui nécessitent une attention particulière. Le président du Parlement des jeunes du Nord Kivu épingle ici la question de la santé de l'adolescente, singulièrement les suivis du cycle menstruel. Jordan Mugisha en parle au micro de Chris Mukand.
Les jeunes filles sont en train de souffrir. Pour les soins de santé menstruelle, c'est un peu compliqué. Les filles ne contrôlent pas le cycle menstruel. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de suivi. Les parents qui sont traumatisés et n'ont pas le temps pour suivre leurs filles par rapport à leur cycle menstruel. Et les filles, elles sont là et ne savent plus si le cotex est à quoi. Parce que qui va leur fournir le cotex ? Personne. Les parents sont dans une situation compliquée. Les ONG qui sont là, peut-être elles peuvent voir une mesure à accompagner aussi ces filles-là qui se trouvent dans des camps de déplacés pour leur cycle menstruel parce que c'est toute une vie. L'hygiène d'une fille, c'est toute une vie. Ce sont les filles qui deviennent des mamans et ce sont elles qui donnent naissance. C'est-à-dire, si cet élément est négligé, c'est que demain après demain, ces filles peuvent tomber malades et on ne sait pas, peut-être une épidémie peut venir de cette maladie et ça serait une catastrophe.
En Ituri, 5 groupes armés actifs dans cette province ont pris hier vendredi l'engagement de la cessation immédiate des hostilités dans l'ensemble de l'Ituri. C'était en présence du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, en mission de quelques heures à Bounia. Le représentant de ces milices réaffirme leur volonté de militer pour la paix durable en Ituri, un acte salué par la société civile Coordination de l'Ituri. Le compte-rendu de Martial Kizabiamungu.
Les représentants des groupes armés URDPC Barkodeko, FRPI, FPIC, MAPI et Autodéfense des communautés victimes de l'Ituri ont pris cette décision de cesser avec les hostilités volontairement pour l'intérêt de la paix. Dans leur déclaration, ils soulignent que tout contrevenant à cet acte d'engagement se verra exposé à des poursuites judiciaires. Tout en saluant cet engagement des groupes armés, la coordination de la société civile de l'Ituri qui a pris part à cette cérémonie plaide pour l'opérationnalisation du processus DDRCS, Dieudonné Loussa, son coordonnateur.
Nous avons recommandé une opérationnalisation des PDDRCS parce que ça ne fonctionne pas. Nous avons également recommandé que les opérations militaires recommencent et qu'on frappe tous ceux-là qui sont réfractaires au processus PDDRCS.
Pour le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant, la finalité de cette démarche est la restauration définitive de la paix à Ituri. Jean-Pierre Bemba Gombo.
J'espère bien continuer le processus pour définitivement mettre en place la paix, la sécurité ici dans tout l'Ituri. On a réuni tous les groupes armés et c'est ça qui est le plus important.
Ces chefs miliciens reviennent de Kinshasa où ils ont rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi du Tshilombo, toujours dans les cadres du processus de paix. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Par ailleurs, toujours en Ituri, plus de 50 leaders communautaires se sont engagés à sensibiliser leurs bases et les différentes couches de la population pour la restauration d'une paix durable dans cette province. C'était au cours d'un atelier de renforcement de capacités organisé hier vendredi à Bounia par l'ONG Accra avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD. Reportage de Lydia Kombe.
Les participants composés essentiellement des leaders religieux, les chefs des quartiers, des députés, des enseignants ont appris quelques notions sur la résolution des conflits, les dialogues communautaires. C'était dans le but de les outiller comme médiateurs de paix en vue de sensibiliser la population dans leurs structures ou attitudes respectives. Le responsable de l'ONG Akran, Jean-Claude Ipungu.
L'éducation de la paix doit commencer dans nos écoles, dans nos communautés. On parle de cohabitation pacifique, commençant par les enfants qui sont à l'école primaire. Les jeunes dans les universités, ils font cette éducation, passe aussi dans les églises. Et aussi, quand ils prêchent la parole de Dieu, qu'ils puissent parler de paix. Ça fait partie aussi de la culture de la paix qu'il faut promouvoir.
Ces acteurs de paix ont relevé certains défis qui pérennisent la guerre en Ituri, notamment le chômage des jeunes. Ils ont demandé au PNUD d'appuyer le gouvernement pour la création des emplois pour décourager la jeunesse à intégrer les groupes armés. L'un des participants.
On met une usine là qui va engager 3000 jeunes. On les paye chaque mois. On fait là où il y a des centres de ces milices-là. Est-ce que nous pensons qu'ils vont continuer à se battre ou ils vont travailler?
Ils ont également demandé au gouvernement d'assumer sa responsabilité pour démanteler les groupes armés en Ituri. Bounia, Lydia Tshombe, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a un nouveau bureau. Il a été élu hier vendredi à Lubumbashi. Ce bureau est dirigé par Michel Kabwe de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Tshisekedi. Tous les nouveaux membres sont de l'Union sacrée de la nation. L'élection et l'installation du nouveau bureau marquent ainsi la fin de la session extraordinaire et le début de la session ordinaire de cet organe délibérant. Des détails avec Jean Gandou.
La plupart des candidats n'avaient pas de challenger, surtout que ceux de l'opposition ont claqué la porte, estimant que le règlement intérieur de cet organe délibérant était intentionnellement violé par le nouveau bureau d'âge. Le suspense était donc dilué. 35 députés sur les 48 qui comptent l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ont pris part au vote. 34 ont porté leur choix sur Michel Kabwe comme président. Ce plébiscite s'est aussi répercuté sur le poste de vice-président qui revient désormais à Liliane Komba. Au poste de rapporteur et des rapporteurs adjoints, il y avait un seul candidat. David Kitondo et Samuel Kilolo Yumba sont passés respectivement avec 34 voix. À la questure, sur trois candidats alignés au départ, seuls deux se sont lancés dans la bataille. L'indépendant Ahmed Mukuna Shaumba a été élu avec 29 voix contre 4 de Micheline Tumba. Michel Kabwe devient donc le cinquième président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga après Mwela Sambi, Freddy Kachoba, Kyungwa Kumwanza et Michel Katebe. Et Liliane Komba devient aussi la toute première femme à occuper le poste de vice-président. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kabwe.
Rendons-nous dans la province du Tanganyika. À présent, à Kalemie, des dizaines de maisons de commerce sont contraintes de fermer suite aux inondations. Les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ont envahi ces commerces qui sont situés le long du boulevard Lumumba et de l'avenue Kalemie. Les opérateurs économiques victimes de cette situation ont soit délocalisé leurs activités, soit ils ont mis fin au commerce. Récit des faits avec Paulin Munanga.
Pharmacie, alimentation, boutique, boulangerie, salon de coiffure et d'autres maisons de commerce sont inondées. Les eaux ont sensiblement pris de la hauteur, obligeant les occupants à ne plus continuer avec leurs activités commerciales. Témoignage. Dans notre boutique, nous étions en train de vendre du sucre, du savon, de la farine de maïs, du sel et d'autres articles. Nous n'avons même pas compris comment ces eaux ont pénétré dans notre boutique. L'unique décision a été de vider les lieux. Certaines de nos marchandises sont abîmées et d'autres sont ramenées à la maison. Cet tenancier d'une boutique d'habillement risque d'être la prochaine victime des inondations. Il se plaint déjà de la rareté des clients. Il n'y a pas d'activité à cause des eaux qui ont coupé la route. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent par ici. Il faut traverser par pirogue. Alors les gens ne veulent plus passer de ce côté. La plupart des personnes préfèrent passer du côté de Kalumbi. Ici chez nous, les activités commerciales sont paralysées. Signalons que l'avancée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga se poursuit inexorablement vers plusieurs quartiers de la ville de Kalemie. Kalemie, Polemunanga, Radio Okapi.
Province de la Tshopo, c'est SOS, des médecins de l'hôpital général de référence des Bafoua Bobo dans le territoire des Bafoua Sendé. Nous sommes à environ 350 km à l'est de Kisangani. SOS lancé en direction des personnes de volonté ainsi que des humanitaires. C'est pour obtenir une assistance pour les transferts d'une femme et ses bébés siamois que ce médecin a extrait après une césarienne le jeudi dernier. Dans cet hôpital, le docteur Serge Lukusa dit n'est pas disposé de matériel. Encore moins de médicaments appropriés pour prendre correctement en charge ces nouveaux-nés. Il lance ses SOS au micro de Jacques Moukonkolé.
J'avais pu extraire des fœtus soudés de même sexe, donc du sexe féminin. Ces enfants sont en vie, ils sont ici à Bomili. Mais vu que nous n'avons pas un plateau technique complet, nous ne serons pas à mesure de prendre ces enfants en charge. C'est pourquoi nous avons lancé un SOS aux gens de bonne volonté, aux politiciens, aux leaders de la communauté de Bafoua de pouvoir nous venir en aide pour que ces enfants bénéficient d'une meilleure prise en charge dans une unité spécialisée ici au Congo ou bien à l'extérieur du pays. Vraiment, la famille est démunie. La maman aussi n'était pas en bonne santé et elle a du mal à nourrir convenablement ses enfants. Ici, même pour trouver les laits artificiels adaptés à l'âge de ses enfants, c'est très, très difficile. C'est pourquoi nous vous supplions de pouvoir lancer cet appel pour que nous puissions trouver gain de cause.
Actualité internationale.
En Centrafrique, une 60aine de personnes au moins ont trouvé la mort vendredi 19 avril dans les naufrages d'une baleinière à Bangui. Les drames s'est produit sur la rivière Mpoko au sud-ouest de la capitale. Ce bilan encore provisoire fait également état de plusieurs dizaines de blessés et des personnes portées disparues. Au Togo, les députés adoptent définitivement une nouvelle constitution. Le texte voté le 25 mars dernier a été passé en deuxième lecture vendredi 19 avril sur demande du président de la République, Faure Gnassingbé. Après la modification de quelques articles, le texte qui change les régimes togolais, les faisant passer à un régime parlementaire, a été adopté à 87 voix.
L'invité.
Les eaux du lac Tanganyika continuent leur montée, sont affectées Uvira au sud Kivu et Kalemie dans la province du Tanganyika. Les infrastructures et autres activités commerciales autour du lac sont menacées de disparition. Pour en parler, nous recevons Maître Daniel Loaboshi, directeur général de la Régie des voies fluviales RVF. Il revient sur cette montée des eaux du lac Tanganyika et ses conséquences à Uvira et Kalemie. Il s'entretient avec Emmanuel Elamejiwa Kabidi.
Maître Daniel Loaboshi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez séjourné dernièrement dans le sud Kivu, à Uvira. Quel était l'objet de votre mission là-bas?
En fait, l'objet de la mission était premièrement de participer à la remise des ouvrages effectués par Trademark sur le port de Kalundu et à la remise du même port de Kalundu à l'organisation PFCIGL pour sa grande modernisation. Mais on en a profité aussi pour voir l'état des liens du lac Tanganyika dont les eaux ont sensiblement monté et qui sont en train d'emporter tout ce qui est son passage, les maisons et les infrastructures de l'État, ainsi de suite. Il y en a de même pour la ville de Kalemie aussi qui sont des victimes de cette montée d'eau. Et
quel niveau de dégâts vous avez constaté personnellement sur place?
Je peux confirmer que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Les maisons sont totalement emportées et beaucoup de citoyens ont perdu des maisons. Des maisons en dur, en étage, ainsi de suite. Les routes sont totalement submergées. Et lorsque vous prenez la route reliant la ville d'Uvira à la ville de Bujumbura, elle est coupée, il y a des eaux par-ci, par-là. Lorsque vous prenez la route reliant les ports de Kalundu à la ville d'Uvira, elle est en voie de disparition. Je ne crois même pas que ça puisse encore résister pendant des jours. Lorsque vous prenez la route reliant la province du Sud Kivu à la province de Tanganyika, donc passant par Fizi, elle est aussi en voie de disparition, menacée par les eaux, c'est totalement inondé. Lorsque vous allez à Kalemie, beaucoup de maisons également sont emportées par les eaux, d'autres sont submergées. Bref, la situation est très catastrophique.
Et les citoyens sont victimes et les cas risquent d'être créés. Encore une autre crise économique dont on souffre déjà. Voilà.
Et avec tout ce dégât, ça a aussi de l'impact sur le trafic sur le lac, le commerce fluvial?
Bien sûr, ça a de l'impact. Le fait que lorsque vous allez au port de Kalundu, prenons le cas du port de Kalundu et même le port de Kalemie, c'est déjà submergé. Et donc, même l'armateur ou le capitaine, lorsqu'il doit accoster, il ne sait plus
différencier ce qui est or exactement et ce qui ne l'est pas. Parce que les eaux ont dépassé totalement les quais et sont allés au-delà du quai. Ce qui fait que beaucoup de bateaux sont en train de chouer au port, confondant exactement ce qui est or et ce qui ne l'est pas.
Donc, ça impacte sur le trafic. Et au-delà de cela, pour que le bateau puisse charger et décharger, les marchandises doivent venir par des voies, par la voie terrestre. Les routes, pendant que les routes n'existent plus. Aujourd'hui, vous avez constaté que même un petit bateau, prenons le cas à Uvira, pour avoir la marchandise, ça doit vous prendre peut-être 2 ou 3 semaines, alors que ça pouvait se charger dans moins de 4 jours. Mais il n'y a pas de route pour ramener les marchandises. Ça pose un sérieux problème. Donc, ça a vraiment un impact négatif sur le trafic fluvial. Et nous en souffrons, nous, comme les exploitants de cette voie là-bas.
Oui, comme DG de la RVF, vous en souffrez. Quelle piste de solution mettre? Bien sûr que c'est un phénomène naturel, les eaux du lac Tanganyika en ce moment. Quelle piste de solution vous proposez?
Bon, d'abord, il faudra savoir que c'est un phénomène naturel, comme vous l'avez dit. C'est les changements climatiques, ça pose un sérieux problème. Mais lors de la montée des eaux déjà au niveau de du fleuve Congo, on l'avait dit, il y a même une piste de solution, c'est que l'État congolais doit se charger d'éduquer les citoyens par rapport à la protection de l'écosystème. Ça, c'est la première piste de solution. Mais il y en a encore une qui est plus durable. La réalité, c'est que le lac Tanganyika n'a qu'un seul exécutoire, n'a qu'une seule voie de sortie, c'est la rivière Lukuga. Et la rivière Lukuga, avec les constructions qui se sont passées sur la colline dite de l'État au niveau des Kalibi, ça a été submergé au point que le sable a fort remonté. Et nous avions demandé à l'État congolais de pouvoir nous doter de dragues spécialisées et multifonctionnantes pour que nous puissions purer la rivière Lukuga afin non seulement d'ouvrir la voie qui semble très bouchée, mais même augmenter la capacité de la prise d'eau de cette rivière. Ça permettra à ce que lorsqu'il y a trop plein dans les lacs Tanganyika, la rivière libère suffisamment d'eau vers le fleuve et ça peut sensiblement diminuer. Mais tant qu'il n'y aura pas cette solution, il y aura toujours ce problème-là. Voilà.
Maître Daniel Loboshi, directeur général de la régie de voies fluviales RVF, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Okapi, mise en onde par Polydor Basunga, supervisée et coordonnée par Jacques-Yves Moliman et Jean-Désiré Kanyama. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de nous avoir suivis.